Pendant le dîner sous le figuier, la conversation fut passionnante. Mon père, enfant des villes et prisonnier des écoles, n'avait jamais tué ni poil ni plume. Mais l'oncle Jules avait chassé depuis son enfance et il n'en faisait pas mystère. Dès le potage, ils se mirent à parler de gibier. « Que croyez-vous que nous allons trouver dans ces collines ?» demanda mon père. « Je me suis renseigné au village, » dit l'oncle. « On vous a sûrement donné de faux renseignements, » répliqua mon père, « car ces paysans sont jaloux du gibier. » Mon oncle fit un sourire malin. « Bien sûr, » dit-il, « mais je n'ai pas avoué que nous allions chasser. J'ai simplement demandé quelle sorte de gibier ils pourraient nous vendre. » « Ça, c'est de la malice, » dit mon père. « J'admirais cette ingéniosité, mais il me sembla qu'elle allait contre nos principes. »« Et que vous ont-ils proposé ?»« D'abord des petits oiseaux. »« Des tout petits ?» demanda ma mère, choquée. « Eh oui, » dit l'oncle, « ces sauvages tuent tout ce qui vole. »« Pas les papillons, » dit Paul. « Non, les papillons, c'est réservé aux petits garçons. »« Mais ils tuent même les fauvettes. »« Ce sol est bien ingrat, » dit mon père. « Que peut-on récolter sans eau ?»« Dans l'ensemble, ils sont vraiment très pauvres. »« Et la chasse les aide à vivre. » Ils vendent les gros oiseaux, ils mangent les petits. Sans compter, dit l'oncle, qu'une belle brochette de bec figue. En tout cas, s'écria ma tante, je te défends bien de tuer les canaris. Ni les canaris, ni les perroquets, c'est juré. Mais l'écu blanc et les ortolans. Les ortolans, c'est délicieux, dit ma tante. Et les grives, dit l'oncle, en clignant de l'œil. Vous nous permettez les grives? Oh oui, dit ma mère, Joseph sait les faire à la broche. Nous en avons mangé l'année dernière à la Noël. Moi, dit Paul avec feu, quand je vois une grive, je la mange toute, mais pas le bec. Ensuite, dit l'oncle, je crois que nous pouvons compter sur des lapins. Oh oui, dis-je, il y en a même près de la maison. Ils ont fait leur cabinet près du gros amandier, c'est plein de pêtes. Pas de gros mots, dit ma mère sévèrement. Ensuite, poursuivit l'oncle, nous rencontrerons sûrement des perdrix, et qui plus est, des perdrix rouges. Toutes rouges, dit Paul. Non, elles sont marrons, la gorge noire, avec des pattes rouges, et de belles plumes rouges aux ailes et à la queue. Ça fera bien pour les chapeaux d'Indiens. Ensuite, dit l'oncle, on m'a parlé de lièvres. Pourtant, dit mon père, François m'a affirmé qu'il n'y en avait pas. Offrez-lui donc 6 francs par lièvre et vous verrez qu'il vous en rapportera. Il y vend 5 francs à l'auberge de Pichoris. J'espère que nos fusils nous épargneront le chagrin de les payer. Ça, dit mon père, ça serait beau. Très beau, dit l'oncle, mais il y a mieux. Dans les ravins du Taume, nous rencontrerons peut-être le roi des gibiers. Et quoi donc? Devinez, dit l'oncle. Des éléphants, s'écria Paul. Non, dit l'oncle. Mais devant la déception du petit frère, il ajouta « Je ne crois pas qu'il y ait des éléphants, mais après tout, j'en suis pas sûr. Allons, Joseph, faites un petit effort. Le gibier le plus rare, le plus beau, le plus méfiant, le gibier qui est le rêve du chasseur. » J'intervins. « De quelle couleur c'est ?»« Brun, rouge et or. »« Des faisans !» s'écria mon père. Mais l'oncle, disant non de la tête, ajouta « Pouf, le faisan est assez beau, je vous l'accorde, mais il est bête. Et au départ, il est aussi facile à tirer qu'un cerf-volant. Du point de vue du gourmet, sa chair est dure et sans goût. Pour la rendre à peu près comestible, il faut la laisser se faisander, c'est-à-dire se pourrir. Non, le faisan n'est pas le roi des gibiers. Alors, dit mon père, quel est donc le roi des gibiers? L'oncle se leva, les bras en croix, et dit « la bartavelle ». Pour prononcer ce mot, il avait élargi sa diction, tout en ouvrant des yeux émerveillés. Cependant, l'effet qu'il attendait ne se produisit pas, car mon père demanda « qu'est-ce que c'est ?» L'oncle ne fut nullement décontenancé. « Vous voyez, s'écria-t-il d'un ton satisfait, ce gibier est si rare que Joseph lui-même n'en a jamais entendu parler. Eh bien, la bartavelle, c'est la perdrix royale, et plus royale que perdrix, car elle est énorme et rutilante. En réalité, c'est presque un coq de bruyère. Elle vit sur les hauteurs, dans les vallons rocheux, mais elle est aussi méfiante qu'un renard. La compagnie a toujours 2 sentinelles, et il est très difficile de l'approcher. » Moi, dit Paul, je sais comment il faut faire. Je me coucherai à plat ventre et je glisserai comme un serpent sans respirer. Voilà une bonne idée, dit l'oncle Jules. Dès que nous verrons des bartavelles, nous viendrons te chercher. Vous en avez tué souvent, demanda ma mère. Non, dit l'oncle de l'air modeste. J'en ai vu plusieurs fois dans les Basses-Pyrénées. Je n'ai pas eu l'occasion de les tirer. Mais qui vous a dit qu'il y avait des bartavelles dans le pays? C'est ce vieux braconnier qui s'appelle Monde des Parpaillots. Je demandais, c'est un noble? Je ne crois pas, dit mon père, ça veut dire Edmond des Papillons. Ce nom me ravit. Et je me promis de rendre visite au mystérieux seigneur. « En a-t-il vu ?» demanda mon père. « Il en a tué une l'année dernière, » dit l'oncle. « Il a porté en ville. On la lui a payé 10 francs. »« Mon Dieu !» dit ma mère en joignant les mains. « Si vous pouviez en rapporter une par jour, moi ça m'arrangerait bien. »« Ce n'est pas seulement le rêve du chasseur, » dit mon père, « c'est aussi la chimère de la ménagère. Ne parlez plus de bartavelle, mon cher Jules. Je vais en rêver cette nuit et ma chère femme en perd la raison. »« Ce qui m'ennuie, » dit la tante Rose, « c'est que d'après la bonne, il y a aussi des sangliers. » « Des sangliers ?» dit ma mère inquiète. « Eh oui, » dit l'oncle en souriant, « des sangliers. Mais rassurez-vous, ils n'y viendront pas jusqu'ici. Au plus fort de l'été, quand les sources sont à sec dans la chaîne de Sainte-Victoire, ils descendent jusqu'à la petite conque du Puy du Mûrier, la seule source de la région qui ne tarisse jamais. L'année dernière, Bâtissin a tué deux. Mais c'est effrayant, dit ma mère. Pas du tout, dit Joseph, rassurant. Le sanglier n'attaque pas l'homme. Il le fuit, au contraire, et de très loin. Il faut de grandes précautions pour l'approcher. Comme les Bartavelles, s'écria Paul. À moins, dit l'oncle, d'un ton grave, qu'il ne soit blessé. Dans ce cas, vous croyez qu'il peut tuer un homme ? Fichtre ! S'écria l'oncle. J'avais un ami de chasse, qui s'appelait Malbousquet. C'était un ancien bûcheron, qui était devenu manchot à la suite d'un accident de travail. Qu'est-ce que c'est manchot ? Demanda Paul. Ça veut dire qu'il n'avait plus qu'un bras. Alors, comment il ne pouvait plus manier sa cognée, il s'était mis braconnier. Avec un seul bras, dit Paul. Eh oui, avec un seul bras, et je te garantis qu'il tirait juste. Il ramenait tous les jours des perdrix, des lapins, des lièvres qu'il vendait aux cuisiniers du château. Eh bien, un jour, Malbousquet s'est trouvé nez à nez avec un sanglier, une bête pas très grosse, 70 kilos exactement, car nous l'avons pesé après. Eh bien, Malbousquet, qui pourtant n'avait pas de chevrotine, s'est laissé tenter. Il a tiré, et il n'a pas manqué. Mais la bête a eu la force de le charger, de le renverser et de le mettre en pièces. Oui, en pièces, répéta l'oncle. Quand nous l'avons trouvé, nous avons d'abord vu, au milieu du sentier, un long cordon jaune et verdâtre qui avait bien 10 mètres de long. C'était les tripes de Malbousquet. Ma mère et ma tante poussèrent des hauts et écœurés, tandis que Paul éclatait de rire et battait des mains. Jules, dit ma tante, tu ne devrais pas raconter ces horreurs devant les enfants. Au contraire, dit mon père, qui voyait une valeur éducative dans toutes les catastrophes. C'est excellent pour leur gouverne. Il est bon qu'ils sachent que le sanglier est un animal dangereux. Si par miracle vous en voyez un, grimpez immédiatement à l'arbre le plus proche. Joseph, dit ma mère, tu vas me promettre que toi aussi tu monteras sur l'arbre et sentiras un seul coup de fusil. Il ferait beau voir, s'écria l'oncle. Je vous ai dit que Malbousquet n'avait pas de chevrotine, mais nous en avons. Il alla chercher dans un tiroir une poignée de cartouches qu'il posa sur la table. Elles sont plus longues que les autres parce que j'ai mis double charge de poudre, dit-il. Avec ça, l'animal reste sur le carreau. À condition, ajouta-t-il en se tournant vers mon père, de tirer au défaut de l'épaule gauche. Faites bien attention, Joseph, j'ai dit gauche. Mais, dit Paul, s'il part en courant, tu ne vois plus que ses fesses, alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Rien de plus simple. Et ça m'étonne que tu n'aies pas deviné. On lui tire dans la fesse gauche ? Pas du tout, dit l'oncle. Il suffit de savoir que le sanglier aime beaucoup les truffes. Et alors, demanda ma mère, très intéressée. Voyons, Augustine, dit l'oncle, vous penchez vers votre côté gauche et vous criez le plus fort possible vers la gauche. Ah, la belle truffe. Alors le sanglier séduit se retourne en pivotant sur sa gauche et vous présente son épaule gauche. Ma mère éclata de rire avec moi, mon père sourit et Paul déclara, tu dis ça pour rire. Mais il ne riait pas lui-même et il n'était sûr de rien.